Radio Capi, grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dieudonné Mirimo Mulongo, ancien rapporteur de la Commission électorale indépendante CEI. Actuellement, il est secrétaire général de l'École des formations électorales de l'Afrique centrale. Monsieur Mirimo, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour madame.
Alors avec vous, nous allons partager votre expérience au sein de la Commission électorale indépendante, cette commission qui a organisé les élections en 2006 en RDC. Mais on va commencer par une petite biographie de vous. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
Je suis né un certain 3 mars 1963 à Bunyakiri, dans la province du Sud Kivu.
C'est là où vous passez votre enfance, c'est là où vous grandissez?
Effectivement, j'ai passé mon enfance là-bas. J'ai fait mon école primaire à l'école primaire de Kando à Bunyakiri. Et de là, je suis allé à Bukavu, à l'Institut Bwindi, une école protestante de la place. En tout cas, parmi
les
meilleurs de la ville, oui, tout à fait. Et j'ai fini mes humanités à l'Institut Bwindi. Ensuite, je suis allé à l'Institut supérieur de commerce, donc je suis diplômé de l'Institut supérieur de commerce.
Toutes vos études, vous les avez faites à Bukavu, Kivu?
J'ai dit l'école primaire à Bunyakiri, l'école secondaire à Bukavu. Et les études supérieures à Kinshasa.
Ah d'accord, vous êtes venu faire l'ISC à Kinshasa. Alors parlez-nous un peu de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, un peu, je dirais, gâté parce que bon, j'étais le deuxième garçon de la famille. Et très rapidement, mon grand frère, paix à son âme parce qu'il nous a quittés, était parti très tôt étudier à Bunia. Et donc je suis resté seul avec mes petits frères et des grandes sœurs qui déjà étudiaient un peu plus loin. Et donc, je suis resté déjà encadré mes jeunes frères et sœurs.
Vous avez grandi dans de bonnes conditions?
Oui, j'ai dit une famille chrétienne, parce que ma mère était une fervente chrétienne, en tout cas de l'Église catholique à l'époque, ainsi que mon père. Il était même légionnaire au sein de l'Église. Donc, je suis d'une foi chrétienne.
Alors, quel souvenir vous gardez de cette enfance à Bunyakiri?
D'abord, le grand souvenir, c'est d'avoir connu les champs. Je sais combien souffrent ceux qui font l'agriculture et qui nourrissent des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Et donc, c'est une grande expérience. Et aujourd'hui, mes pensées vont vers cette population, ces mamans qui, à longueur de journée, parcourent des sentiers, des kilomètres et des kilomètres pour aller faire les champs, afin de nourrir non seulement leurs enfants, mais aussi de nourrir toute la population à travers les coins et les recoins du pays.
C'est l'activité principale, le champ, à Bunyakiri?
À Bunyakiri, c'est l'activité principale, effectivement. On cultive le riz, on cultive le palmier, on cultive le manioc, les arachides, ainsi que d'autres produits connexes.
Et ton enfant, il vous est arrivé aussi de faire le champ?
Tout à fait, j'ai fait le champ. Quand j'ai quitté l'école primaire à l'époque déjà, j'allais au champ rejoindre mes parents. Et donc, j'ai appris à faire le champ jusqu'à l'âge de 12 ans quand j'ai quitté mes parents pour aller faire mes études secondaires. Mais pendant les grandes vacances, je faisais de temps en temps ces activités-là qui, du reste, étaient... j'ai beaucoup appris en faisant les champs parce que finalement, ça anoblit l'homme.
Dieudonné Mirimo, vous avez été rapporteur à la Commission électorale indépendante, la CEI, pour le compte des Maï Maï.
Exact, oui. Donc, au lendemain de l'accord global et inclusif, lorsqu'on a mis en place les gouvernements, les parlements, on a également mis en place les institutions d'appui à la démocratie, dont la Commission électorale indépendante. Et donc, nous avons été désignés par l'entité Maï Maï pour la représenter au sein de la Commission électorale indépendante. Et nous avons été donc désignés rapporteurs de cette institution.
Vous parlez de l'entité Maï Maï, c'est un parti politique?
Non, ce n'est pas un parti politique à l'époque.
C'est un regroupement?
Non, c'est que vous rappelez que déjà vers les années 90, nous avons connu pas mal de problèmes avec des mouvements d'agression venant des pays voisins. Et donc, les jeunes se sont organisés pour essayer de résister contre ces agressions à répétition. Et plus tard, donc, le mouvement a pris forme et donc ils se sont organisés à travers les forêts pour mener une résistance afin d'empêcher l'occupation de notre pays. Donc, c'est cette résistance-là qu'on a appelée Mai Mai à l'époque.
Un mouvement armé.
C'est un mouvement armé, exact.
Vous avez fait partie des Mai Mai.
Tout à fait, exact.
Vous avez combattu aussi.
Le combat n'est pas seulement que militaire, il a plusieurs formes. Donc, effectivement, nous avons œuvré dans ce mouvement-là pour garder nos frontières intactes et donc lutter pour l'intégrité du territoire national.
Mais pourquoi le choix a été porté sur vous de donner une rime pour représenter ce mouvement au sein de la commission électorale indépendante?
Peut-être que je ne saurais pas répondre à la question parce que ce sont les responsables de l'entité qui se sont réunis à Lulingu dans le territoire de Shabunda qui ont décidé des différents cadres qui devaient être désignés dans les différentes institutions. Donc il y en a qui ont été désignés à l'Assemblée nationale, au Sénat, et dans les institutions d'appui à la démocratie. Donc c'est peut-être eux qui peuvent savoir pourquoi ils m'ont proposé comme délégué du mouvement Mai Mai à la commission électorale indépendante.
Vous étiez cadre dans ce mouvement?
J'étais cadre, mais il faut aussi dire que lorsque la proposition avait été faite, j'avais été proposé comme ministre de l'Environnement du gouvernement de transition. Mais en dernière minute, les choses ont changé et je comprends que c'était le destin de Dieu qui a voulu que finalement je me retrouve rapporteur à la commission électorale indépendante.
Alors en acceptant de travailler à la commission électorale indépendante, est-ce que vous saviez quelle charge vous attendait?
En vérité, on ne savait pas ce qui nous attendait parce que comme vous le savez, c'était
une première expérience.
En tout cas, la seule expérience électorale que j'ai, c'est l'élection des chefs de classe, des chefs de promo, des dirigeants à l'époque du parti État. C'est peut-être la seule expérience que je peux avoir parce que j'ai eu à exercer les fonctions de commissaire, comme on l'appelait, à l'ISC à l'époque au sein de la jeunesse estudiantine. Donc c'est la seule expérience que j'avais. Mais quand nous commençons donc la commission électorale indépendante, nous n'avons pas de bureau. On nous a proposé, je crois, des bureaux vers le palais du peuple, là il y a des triplex, là où il y avait les CPP, le comité des pouvoirs populaires, mais on a estimé qu'on ne pouvait pas quand même travailler dans ces conditions-là. C'est ainsi que nous allons occuper les bureaux privés de M. l'abbé Malumalu, qui était à l'époque recteur de l'Université catholique de Grabin, mais qui avait un bureau relais à Kinshasa, dont nous avons commencé les activités dans son bureau privé, et ici, non loin du rond-point Kinmazier. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à réfléchir sur la manière dont nous allons organiser les élections. Et du reste, on sait que personne n'y croyait.
Hein? Et les acteurs...
Non, nous au moins on se disait, bon, c'est une mission,
vous
on va voir.
Croyez?
Il n'y a que nous-mêmes qui y croyons. Mais comme Saint-Exupéry, qui allait dans l'inconnu. Et donc, nous avons démarré les activités là-bas, et très difficilement, sans moyens. Mais on avait cette foi-là, cette détermination-là, et je crois que c'est ce qui nous a conduit, qui a permis que nous puissions aller de l'avant. Nous avons commencé à initier des petits projets. Et là, je tiens vraiment à me rappeler de Mme Micheline, de l'AFS, qui a été d'un grand soutien au moment où on commençait cette institution. Et nous apporter de l'eau à boire chaque midi, ainsi de suite. Après, c'est Lisa Aidé qui est venue nous accorder son appui. Et les mois qui ont suivi ont permis qu'on puisse louer des bureaux pour nous à travers le projet que nous avons introduit à Lisa Aidé au niveau de Botou. Donc, on a pris le plateau du quatrième niveau du Botou pour servir de bureau de la commission électorale indépendante. Et plus tard maintenant, le gouvernement a mis à notre disposition les bâtiments de ex-SINAT. Et donc, nous avons aménagé SINAT pour servir de bureau des sièges de la commission électorale indépendante. Et par la suite, maintenant, le gouvernement a décidé de pouvoir, vu l'ampleur du travail et le volume de personnel qui était impliqué dans cette mission-là, avec les partenaires de la communauté internationale, parce qu'on travaille avec le PNUD et la division électorale. On nous a donc on a mis à la disposition de la commission électorale indépendante les bâtiments qui a servi des bureaux, des sièges de la Banque du Commerce Extérieur, donc l'ex-BDP, où se trouve actuellement la Commission électorale nationale indépendante.
Les membres de la Commission électorale indépendante de la CEI venaient de différents groupes. Est-ce que le travail se faisait facilement, la compréhension était facile entre vous, l'intégration?
Il faut dire
que chacun venait de son côté.
Il faut dire qu'au début, on se regardait là avec
un peu de méfiance entre vous.
Méfiance, parce qu'il y a ceux qui viennent du gouvernement et des mouvements rebelles comme les RCD, les MLC, hein, les RCD, KML, et ainsi de suite. Donc au début, le climat n'était pas assez bon. Mais plus tard, nous sommes rendus compte, parce que au début, il n'y avait que les 7 membres du bureau qui étaient désignés. L'opposition a mis du retard pour désigner son délégué, en tout cas un peu plus tard. Et donc, après, maintenant, on a désigné les autres membres de la plénière, conformément à la loi organique de la Commission électorale indépendante, qui était promulguée le 4 juin 2004. Et donc, c'est plus tard maintenant que nous sommes rendus compte que nous étions comme des passagers dans un bateau, allant dans une direction, et que on n'avait pas besoin de nous quereller. Nous avions comme mission de faire accoster les bateaux. Et si ça chavirait, ça ne choisirait ni opposition, ni majorité. Et donc, c'est ainsi que le travail s'est fait, en tout cas dans cette dynamique-là. Et Dieu merci, en tout cas malgré quelques divergences, hein, naturellement, là où il y a des hommes, il y a des divergences, mais nous avons conduit à bon port ce grand bateau qui a permis de pouvoir non seulement identifier les Congolais pour la première fois, parce que le dernier recensement datait de 1984, il n'y avait pas de données nous permettant d'organiser le référendum constitutionnel. Nous avons lancé l'enrôlement des électeurs à Kinshasa le 20 juin 2005, et cette opération nous a permis à terme d'inscrire sur les listes électorales 25 712 552 électeurs. Et à la suite de ça, nous avons organisé le référendum constitutionnel, les élections présidentielles, premier et deuxième tour, combinées avec les législatives nationales et provinciales, les sénatoriales, les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Voilà un peu comment nous avons cheminé. Et aujourd'hui, je crois que nous devons être fiers d'avoir réalisé cette mission-là, parce que non seulement que nous avons organisé les toutes premières élections libres, démocratiques et transparentes après plus de 40 ans d'indépendance, mais nous avons permis au peuple congolais, peuple souverain, de se choisir ses dirigeants librement. Et donc, nous sommes les artisans, en tout cas avec le concours de plusieurs partenaires, y compris la presse, qui a été d'un soutien indéniable, la mise en place donc des institutions de la République qui aujourd'hui devraient être renouvelées à l'issue des élections de novembre prochain.
Alors vous dites que vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir organisé des élections démocratiques transparentes, mais il y a quand même des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à contester ces élections-là pour dire qu'il y avait fraude lors des élections de 2006.
C'est de leur droit de le faire, mais je crois que ceux qui sont sincères, ceux qui savent comment les choses se passent, ils ne cessent de les dire, parce qu'ils ont suivi pas à pas le déroulement de ces processus électoraux. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, tous les rapports des missions d'observation, tant des observateurs nationaux et internationaux, attestent que les élections que nous avons organisées ont été libres, démocratiques et transparentes.
Je vais commencer par le négatif. Quel mauvais souvenir vous gardez de votre passage à la Commission électorale indépendante?
Mauvais souvenir, c'est d'être monté pour la première fois de ma vie dans un char de combat pour aller annoncer les résultats du premier tour le 20 août 2006.
Comment vous vous êtes retrouvé dans ce char de combat?
Ce jour-là, nous étions en pleine délibération des résultats, procès-verbaux venant de différentes circonscriptions électorales. Nous étions à Sainte-Anne et donc nous attendions. Déjà, le message était parti à la télévision indiquant que vers 20h, nous allions annoncer les résultats. Et pendant qu'on était en pleine délibération des résultats, nous avons été informés qu'il y avait des coups de feu vers Forestcom. Bon, on se disait que bon, peut-être c'était des militaires incontrôlés ou des bandits armés, ainsi de suite. Et puis, plus tard, on a senti que, bon, il y avait les mouvements s'accélérer et ça venait vers Sainte-Anne où nous étions. Et du coup, on était déjà vers la fin de la délibération. On s'est arrêté pour se chercher à comprendre ce qui se passait. Et bon, et du coup, on se rend compte qu'on est encerclé par des militaires, bon, je ne sais pas, venant d'où. et nous sommes restés là-bas. Nous avons, heureusement que la Monique à l'époque est venue. Elle était déjà là, mais elle a renforcé son équipe pour nous sécuriser, ainsi que la police nationale congolaise. Nous les saluons en tout cas pour le travail qu'ils ont fait. Et nous sommes restés là pendant plus de 3 heures, parce qu'on ne savait que faire. Il fallait d'abord qu'on sache ce qui se passe. Il fallait maîtriser la situation et les services de sécurité se sont mis au travail. Nous saluons vraiment le travail qu'ils ont fait avec bravoure. Et au bout de 3-4 heures, la décision a été prise d'aller annoncer les résultats sur les chaînes de la radio et télévision nationale congolaise, parce que l'intérieur ne savait pas ce qui s'est passé ici. Même ceux qui sont dans les communes périphériques de Kinshasa, en tout cas, ne suivez pas ce qui s'est passé à Gombe.
Quand la situation s'est calmée un peu, vous avez cherché à savoir ce qui s'est passé, c'était quoi, ces militaires venaient d'où, pourquoi ils tiraient, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bon, ça on a su peut-être après, mais on n'a pas su immédiatement. On sait que c'était des militaires qui étaient positionnés du côté du rompe Forestcom et qui avaient peut-être une mission. L'histoire nous dira plus tard qu'est-ce qu'ils voulaient exactement.
Est-ce qu'il n'y avait pas une fuite déjà des résultats qu'on attendait?
Bon, ça je ne sais pas. De toutes les façons, quand on délibérait, il y avait tout le monde, l'opposition et la majorité. Il est possible que certains membres aient à communiquer le déroulement de nos délibérations, ce qui serait une violation du serment que nous avons prêté à la Cour suprême de justice. C'est possible, c'est parmi les hypothèses, mais sinon, tout s'est passé dans la transparence, on n'avait rien à cacher. Du reste, un candidat qui a les témoins dans tous les bureaux pouvait déjà avoir une idée sur les résultats avant que la commission électorale ne puisse les rendre publics. Donc ce n'était pas un secret du tout. Il peut y avoir quelques différences dans la sommation, mais sinon on peut déjà savoir si on va gagner ou on va perdre, ou on peut avoir à peu près tel pourcentage.
Et malgré la tension, ce jour-là, vous avez pris tout votre courage pour aller annoncer les résultats.
Effectivement, nous avons pris notre courage en main, parce que c'était une grande responsabilité. Le pays était certainement en panique, et ceux qui sont, comme j'ai dit, en province, ceux qui sont en dehors de Gombe, Barumbu et Kinshasa, ne pouvait pas comprendre pourquoi nous qui avons prévu d'annoncer les résultats à 20h, il est 21h, 22h, 23h, on ne le fait pas. Soit qu'on est en train de les tripoter, soit qu'ils pouvaient tous imaginer. Et donc nous avons pris notre courage en main avec M. Labbé en tête, qui est un homme exceptionnel, il faut le dire. Et nous avons décidé donc d'aller à bord des chars de combat, en tout cas une douzaine de chars qui nous a escortés avec les pick-up de la police nationale congolaise vers la RTNC, où nous avons donc annoncé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. C'était aux alentours de 23h.
Après la publication des résultats du premier tour, il y a eu des tensions dans la ville. Comment vous vous êtes senti pendant cette période-là?
On avait déjà compris la mission qui était la nôtre, parce que comme vous savez, quand vous jouez le rôle d'arbitre, aucune équipe ne va vous aimer. L'équipe qui gagne, certainement, peut vous applaudir, mais l'équipe qui perd ne va pas vous applaudir, va crier, je ne sais pas, à la fraude, à la tricherie. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos pays africains. Dans d'autres pays, on voit comment ça se passe. Tout de suite, quand il y a un gagnant, le perdant le félicite. Et on tourne la page et le pays continue à fonctionner. Mais chez nous, il y a toujours les refus d'accepter les résultats, même s'il y a des preuves qui attestent que réellement les résultats qui ont été publiés, ce sont les résultats ici des urnes. Il y en a qui pensent qu'en mettant cette pression-là, ils peuvent soit changer les résultats. Malheureusement, le souverain, quand il a décidé, le résultat est celui-là.
Vous étiez menacé? Votre vie était menacée?
Oui, ça c'était notre lot quotidien, mais heureusement que Dieu nous a aidés à pouvoir tenir bon jusqu'à la fin de notre mission.
On n'a pas menacé votre famille?
Bon, elle a été menacée sous plusieurs formes, parce qu'à un certain moment, elle a même été obligée de quitter le pays, ainsi de suite, mais de toutes les manières, l'important c'est que nous avons pu réussir cette mission qui est une mission noble.
Et le bon souvenir que vous gardez de la commission électorale indépendante?
Le bon souvenir, c'est d'avoir été dans cette équipe qui a permis d'organiser les toutes premières élections libres, démocratiques et transparentes. C'est vraiment un très bon souvenir que je garde. Et en gros,
la tâche n'était pas facile quand même.
C'est vrai, la tâche n'était pas facile.
Il fallait aller dans les coins et coins de la RDC.
J'ai eu le privilège aujourd'hui de faire pratiquement tous les territoires du pays. en utilisant tous les moyens. Les avions, les motos, les hors-bord, les pieds, les vélos. Tout cela pour essayer de suivre le déroulement des opérations parce que nous avions la mission de réussir.
La lourde responsabilité.
Tout à fait, et nous étions tenus au résultat. Personne ne pouvait nous comprendre qu'on n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas de pirogues ou de motos, de vélos, parce qu'on devait faire les pieds. On devait affronter tous ces défis-là, et Dieu merci, nous avons atteint nos objectifs.
Dieudonné Mérim, aujourd'hui vous êtes secrétaire général de l'école des formations électorales de l'Afrique centrale. C'est quoi cette école?
L'expérience de la RDC a permis que les pays de la CAC et d'autres pays d'ailleurs, parce qu'il est important de dire que la commission électorale indépendante a été membre du forum des commissions électorales de la SADC, et nous avons occupé pendant 2 ans la présidence de ce forum qui réunit les 15 pays de la SADC. Et c'est en reconnaissance de cette mission réussie d'organiser les élections dans un pays aux multiples défis que nos pères ont décidé que le siège du savoir électoral de l'Afrique centrale soit basé à Kinshasa. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des écoles qui ont été décidées, des écoles qui devaient être créées dans la sous-région. Il y en a 10 et tous les collègues membres des commissions et administrations électorales de la CAC ont décidé que l'école électorale soit basée à Kinshasa, mais devrait rayonner sur l'ensemble de la région pour partager cette expérience congolaise qui inspire pas mal de pays de la région. Et donc, cette école qui fonctionne à Kinshasa aura à former les ressortissants des pays de la CAC, et nous allons ouvrir pour cela 9 masters dans les domaines électoraux, l'administration électorale, les droits électoraux, la sécurisation électorale, ainsi de suite. Mais également, nous aurons des formations modulaires au profit des ONG et des confessions religieuses sur l'observation électorale et l'éducation électorale.
C'est une école qui a quelques mois seulement.
C'est le 12 mai dernier que le conseil d'administration réuni à Libreville a adopté les statuts et a nommé les animateurs de cette école. Donc il est encore trop jeune, mais il a des ambitions, comme je l'ai dit, non seulement régionales, mais il va rayonner sur l'ensemble du continent.
Mais qui donne cette formation aux bénéficiaires?
Nous avons des formateurs que nous recrutons au niveau national, et nous avons des professeurs qui viendront de l'étranger pour assurer la formation des différents masters qui seront ouverts à l'école électorale. Donc, je l'ai dit tantôt, nous aurons 9 masters. Donc, au fur et à mesure, avec les partenaires qui seront intéressés avec un master donné, nous allons faire le programme parce que les études, comme vous le savez, coûtent cher, surtout que les étudiants vont venir des pays de la CAC. Les enseignants viendront aussi des pays étrangers, du Canada, de France, de Belgique et des États-Unis, de partout. Et donc, nous allons donc organiser ce master-là au fur et à mesure que nous allons donc nous accorder avec les différents partenaires qui s'intéressent à l'un ou l'autre master.
Tout le monde peut venir s'inscrire dans cette école où il y a des critères.
C'est d'abord post-universitaire.
Oui, il faut remplir certains critères pour avoir accès à la formation.
Pour ce qui est de master, il faut d'abord avoir une formation post-universitaire, comme je l'ai dit. Mais très rapidement, nous allons donner les conditions. Dès que nous, avant de lancer un master, nous allons fixer les conditions d'inscription parce que nous aurons autour d'une 20aine d'étudiants par promotion et par master.
Alors la CEI a cédé la place à la CENI. Vous n'êtes pas dans la CENI. Est-ce que vous n'auriez pas aimé continuer avec la CENI?
Peut-être que j'aurais aimé, mais le destin a voulu que je ne sois pas à la CENI, et je dois rendre grâce à mon Dieu qui a voulu que je ne sois pas à la CENI. Il n'y a que lui qui sait pourquoi, mais un jour, on saura aussi pourquoi Dieu n'a pas permis que j'y sois. Et donc,
mais vous-même, personnellement, vous auriez aimé être là?
Bon, comme j'ai dit, j'aurais voulu continuer cette mission-là, comme j'ai dit, qui est noble, mais Dieu n'a pas permis, et il sait pourquoi, et je le remercie pour cela.
Vous avez des ambitions politiques?
Tout à fait, parce que comme vous le savez, j'ai terminé ma mission de neutralité, hein, qui était celle d'organiser, de gérer les élections à travers le pays, en collaboration avec tous ceux qui nous ont accompagnés. Maintenant que cette mission est finie, je ne pense pas que je sois lié par quelque chose qui m'empêcherait de pouvoir aller aux élections. Et je pense que d'ici là, je vais pouvoir me présenter aux prochaines élections.
Prochaine 2016, où vous parlez des élections de novembre prochain.
De novembre prochain.
Vous êtes toujours dans le mouvement Maïmaï?
Non.
Vous avez quitté?
Bon, pas quitté, mais bon, comme vous savez, lorsque nous avons été à la CI, nous avons décidé chacun de pouvoir couper le cordon ombilical avec son parti pour essayer de garder cette neutralité-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, après cette mission-là, j'ai pris le temps de réfléchir et je pense que je vais pouvoir me présenter aux élections législatives prochaines de 2011.
Dieudonné Mirimo est marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié régulièrement et père de 4 enfants, une fille et 3 garçons.
Alors, nous sommes à la fin de notre entretien, Dieudonné Mirimo. Un mot à tous ces Congolais qui nous suivent. C'est moi qui se posais la question de savoir où vous êtes passé, parce qu'en 2006, vous étiez presque la star. Hein. On vous suivait sur toutes les chaînes de télévision, radio. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces Congolais qui attendent les élections au mois de novembre prochain?
D'abord, je voudrais les remercier parce que, sincèrement, ils ont, à chaque fois que je passais sur les antennes de la radio, de la télévision, je recevais les échos des provinces, des échos positifs, en tout cas, et d'encouragement. Je tiens à les remercier de tout cœur. Ensuite, je voudrais leur dire que les élections sera finalement la manière d'accéder au pouvoir dans notre pays. Plus jamais, et c'est ça notre souhait, les armes serviront pour accéder au pouvoir. Donc, nous les invitons, après avoir réalisé ce lourd devoir de s'enrôler avec les 32 millions d'inscrits sur les listes électorales. C'est vrai qu'ils ont leur carte, mais nous voulons les inviter à pouvoir se préparer à voter le jour venu. Et pour cela, donc, ils doivent déjà pouvoir identifier les différents candidats qui vont se présenter, mais surtout remplir ces devoirs-là. Parce que la personne qui refuse de voter pour une quelconque raison, c'est son droit, mais il doit savoir qu'il va subir le choix des autres électeurs. Donc, je demande à nos compatriotes de pouvoir contribuer au choix des dirigeants qui vont demain animer les institutions de la République démocratique du Congo.
Dieudonné Mirimo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dieudonné Mirimo Mulongo, ancien rapporteur de la Commission électorale indépendante CEI. Actuellement, il est secrétaire général de l'École des formations électorales de l'Afrique centrale. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.